Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour à tous et toutes.
Alors aujourd'hui, nous poursuivons plus en détail notre voyage en Inde avec un invité de marque. C'est Romain Linan, grand connaisseur de ce pays, qui va nous raconter son expérience. Bonjour Romain.
Bonjour.
Bon, on connaît bien Romain à Radio Alpa. C'est technicien de Radio Alpa, c'est lui qui nous a formés. Bah, merci d'avoir répondu à notre invitation, Romain.
Bah, merci à vous.
Alors avant d'écouter Romain, enfin de partager avec lui son expérience, et aussi pour faire le lien avec le dernier épisode de notre émission, on va se replonger dans l'histoire de l'Inde, avec particulièrement celle de Gandhi, le père de la nation. On en était resté à la fin de l'Empire moghol en 1858, donc c'est assez proche de nous quand même,
ouais.
Et à la colonisation britannique, et j'avais parlé d'Ambedkar, le ministre intouchable qui a écrit la Constitution de 1950, et j'avais aussi prononcé le nom de Gandhi. Alors ces deux personnalités contemporaines ont toutes les deux œuvré pour améliorer le sort des Indiens. Ça, c'est vraiment deux personnalités très importantes sur le plan politique. Alors Gandhi est né le 2 octobre 1869, en pleine période de la colonisation britannique, comme Ambedkar, avec lequel il partageait ses valeurs humanistes. Mais Gandhi était indépendantiste et hindou, et n'était pas tout à fait dans la ligne égalitariste d'Ambedkar, qui était un intouchable.
D'accord.
Alors, Ambedkar était la voix des sans-voix, donc des intouchables, et a collaboré avec les Britanniques pour qu'il y ait des réformes dans la société indienne. C'est la grande différence avec Gandhi. Gandhi était, lui, la voix des Indiens contre la colonisation et est devenu le père de l'indépendance. Il a toujours refusé de collaborer avec les Anglais. Et il faut savoir qu'Ambedkar, recommandé par Gandhi, a été le ministre de Nehru, devenu président en 1947 au moment de l'indépendance. Alors autre chose importante le concernant, en 1956, Ambedkar s'est converti au bouddhisme, comme beaucoup d'intouchables, et ça leur permettait c'était dans un principe, je dirais, d'égalité.
Mmh.
Et Ambedkar est mort à 65 ans la même année, après avoir fondé le Parti républicain indien.
D'accord. Alors, Gandhi, lui, il est le père de l'indépendance de l'Inde, alors ?
Oui, c'est le père de l'indépendance et c'est le père de la nation. Alors,
d'accord.
Je vais dire quelques mots sur la colonisation britannique qui s'est déroulée en deux phases. D'abord, le contrôle du pays par la Compagnie des Indes orientales de 1757 à 1858, puis la vraie domination et la colonisation de 1858 à 1947, date de l'indépendance et de la partition avec la création des deux États souverains, l'Inde et le Pakistan. Alors, Gandhi était un des leaders du mouvement nationaliste indien pour l'indépendance avec Nehru et Patel, qu'on connaît moins.
Mmh.
Et en parallèle, existait la Ligue musulmane dirigée par Muhammad Ali Jinnah, qui défendait les intérêts des musulmans pour la création d'un État distinct en raison des craintes de marginalisation dans un futur État dominé par les hindous. Je dirais, le décor était planté et le décor n'a pas trop changé.
D'accord, bah alors, moi j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ce qu'était Gandhi, d'où il vient, son histoire.
Oui, alors, son nom entier, c'était Mohandas Karamchand Gandhi, plus connu sous le nom de Mahatma la Grande Âme.
Oui.
Mais bon, il n'aimait pas qu'on l'appelle comme ça, Gandhi.
Ah.
Non, il préférait qu'on l'appelle Gandhi.
Bon, voilà.
Il est né le...
Oui,
le... Mais n'empêche que les autres, le peuple l'appelait le Mahatma.
Mm-hmm.
Alors, il est né le 2 octobre donc 1869 dans l'état du Gujarat, à l'ouest de l'Inde. Et Romain va peut-être nous parler du Gujarat, je crois que tu y es allé, Romain.
Dans le Gujarat, oui, exactement.
Voilà, ah. Bon, on en reparle
bon, tout à l'heure.
Voilà, il est allé au pays de Gandhi, Romain. Et Gandhi est mort assassiné à New Delhi le 30 janvier 1948 à 79 ans.
Mmh.
Alors, il était issu de la caste Vaishya, celle des agriculteurs. Alors, je vous rappelle, hein, il y avait la caste des brahmanes, des guerriers, des commerçants et des travailleurs.
Oui, on en a parlé un peu la dernière fois.
Les brahmanes la tête, les guerriers les bras,
voilà.
Voilà, les commerçants, le buste, et puis les travailleurs, les pieds, voilà. Et particulièrement de la sous-caste des Banillas, qui c'est une caste associée aux valeurs de l'épargne, de la frugalité, du sens du travail, donc des valeurs qui ont beaucoup marqué Gandhi.
Ouais, forcément.
Voilà, et sa famille n'était pas riche, mais avait une très bonne position sociale. Et Gandhi a été aussi très influencé par sa mère, très pieuse, donc hindouiste, pour ce qui concerne son éveil spirituel. Alors il faut savoir que Gandhi a été marié à 13 ans à une jeune fille de 12 ans, et il aura 4 fils, mais il les aura plus tard. Je tiens quand même à le préciser.
D'accord.
Et à l'âge de 19 ans, en 1888, Gandhi va partir à Londres pour étudier le droit à l'University College. Après avoir obtenu son diplôme en 1891, il retournera en Inde, mais ne trouvera pas le succès espéré en tant qu'avocat.
Ah mince, alors du coup, il a fait quoi ensuite ? Quels ont été ses projets ?
Alors c'est en 1893 qu'il va partir en Afrique du Sud, alors sous domination britannique.
Oui.
Il va accepter un contrat d'un an pour travailler en tant que conseiller juridique dans une compagnie d'assurance. Et c'est là-bas, lors d'un voyage en train, qu'il va rencontrer la discrimination raciale pour la première fois de manière directe et violente. Il se fera expulser d'un compartiment de première classe alors qu'il avait son billet. Et ce fait très marquant pour lui va éveiller sa conscience sociale et politique. Et donc, en 1894, il fondera le Congrès national indien qui permettra à la communauté indienne d'Afrique du Sud de devenir une véritable force politique. Il est resté en Afrique du Sud pendant 21 ans, Gandhi,
ah
quand
oui,
même.
Ah hein.
Oui, oui.
Je savais qu'il était
oui,
là-bas,
oui.
Mais je ne pensais pas autant de temps, en fait.
Alors, bien évidemment, ça a laissé des traces hein, en Afrique du Sud, ce passage de Gandhi. Et il a donc, bien sûr, profondément influencé Nelson Mandela, qui est né en 1918. Hein. Ils auraient pu se rencontrer, finalement.
Ah, c'est...
Voilà.
C'est sympa, ça. J'aurais bien aimé cette rencontre.
Voilà. Et donc, Gandhi est considéré, lui aussi, comme une icône en Afrique du Sud.
D'accord. On est donc en 1915. Gandhi revient en Inde. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ?
Ben voilà, après son expérience de 21 ans passée à défendre ses compatriotes contre les Britanniques, Gandhi, qui a donc 46 ans à ce moment-là, s'engagera complètement dans la lutte pour l'indépendance et il va devenir rapidement un des leaders du mouvement nationaliste indien en appelant à lutter contre l'injustice, mais sans infliger de souffrance, selon les principes de résistance passive et de non-violence. Alors Gandhi apportait particulièrement son soutien aux femmes, aux plus pauvres, aux intouchables qu'il appelait les Harijan.
D'accord.
Et bah, c'est en français, on les traduit par les enfants de Dieu.
Okay.
Et Gandhi militait aussi contre la discrimination liée aux castes, mais pas de la même manière qu'Ambedkar. Il n'était pas égalitariste, Gandhi, je
D'accord.
tiens à le rappeler.
Okay.
Voilà, bon, je vous propose une pause musicale. Hein. On va écouter Kumar Sanu, c'est un chanteur très célèbre. Et c'est une chanson de 2004 et ça s'appelle « Sawan Kamaiwa Hai ».
सावन का महीना है बारिश की झड़ी है सावन का महीना है बारिश की झड़ी है आजा मेरे पास तू दूर क्यों खड़ी है सावन का महीना है बारिश की झड़ी है आजा मेरे पास तू दूर क्यों खड़ी है भीगी भीगी रात है साथ भीग जाओ ना भीगी भीगी रात है साथ भीग जाओ ना लग जा गले से आके ऐसे शर्माओ ना बाहों में चले आओ ना आलम नशीला है, देखो नसीबों से ये लम्हा मिला है, मौसम गुलाबी है।
Alors nous voilà revenus à Asialogie et surtout à nouveau sur le départ pour l'Inde et retrouver Gandhi et les suites de ses aventures en Inde, s'il te plaît.
Oui, alors son combat pour l'indépendance a été long, 30 ans de lutte, pratiquement jusqu'à sa mort en 1848. Alors grâce à lui, en 1919, il y aura une nouvelle constitution. Parce que bon, il agissait, hein. Mais les Anglais y conservaient encore bien trop de pouvoir. Alors Gandhi appellera à des grèves, à des manifestations pacifiques. Mais bien sûr, comme dans toute manifestation pacifique, il y en a, enfin, qui suivent pas les
oui,
recommandations.
Et voilà.
Voilà. Alors
il y toujours aura... en marge des manifestations.
C'est ça. Donc il y aura des incendies, des violences physiques contre les Européens, et il y aura plusieurs morts. Et en avril, toujours en 1919. Une manifestation va dégénérer à Amritsar et 379 partisans de Gandhi seront exécutés en représailles par les soldats britanniques.
Ah oui, tout de même.
Puis Gandhi va mener entre 1920 et 1922 des mouvements de non-coopération. Et ça, c'est important, il va appeler à boycotter les institutions et les produits britanniques, incitant les Indiens à reprendre le tissage traditionnel du coton qu'on appelle le khadi.
Okay.
Alors ça, c'est important parce que c'est devenu le symbole d'autosuffisance pour le pays. Et on voit au centre du drapeau national indien un métier à tisser s'appelle le charka. Voilà.
D'accord.
Et ça vient de là, ça vient de la reprise du tissage traditionnel et de la fabrication du khadi.
J'aurais encore appris quelque chose ce soir. Donc. Mais alors, du coup, j'imagine que ça a dû titiller l'agacement des Anglais, qui devaient être un petit peu furieux, et qui ont dû réagir, j'imagine.
Oui, et Gandhi sera arrêté le 10 mars 1922 pour sédition et sera condamné à 6 ans de prison. Et il va être libéré un peu plus tard, hein, il a 55 ans. Et en 1930, il va reprendre le combat et organiser la fameuse marche du sel pour dénoncer la taxe du sel qui était moyenâgeuse, hein, et puis la loi qui interdisait aux Indiens de récolter leur propre sel. Et donc, c'est une marche qui réunira des milliers de personnes. Hein, et ils vont marcher pendant 390 kilomètres pour récolter le sel qui leur était interdit. Voilà, c'est un vrai succès, cette marche.
D'accord.
Et il y aura 60 000 arrestations quand même.
Pendant... 60 000
Oui. C'est...
Ben, il y a du monde dans la demi-mesure, aussi, hein. Oui, quand même.
Voilà. Et en 1942, il y a le mouvement Quit India, ça c'est clair, hein, Quit India, qui demandait clairement le départ immédiat des Britanniques.
D'accord.
Voilà, donc c'était un mouvement de désobéissance civile. Hein. Il y a eu encore des arrestations massives, y compris celles de Gandhi et de Nehru.
Oui.
Et le parti du Congrès fut le parti de Gandhi. Hein,
oui,
fut
interdit. Essayer de le museler, quoi, normal.
Voilà, mais la voie de l'indépendance était ouverte. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait les guerres hein, pendant ce temps-là.
Mm-hmm.
Donc, je dirais l'Empire britannique s'était affaibli. Et finalement, ils vont céder. Donc, Gandhi ira à Londres après la guerre et il va négocier l'indépendance qui sera déclarée le 15 août 1947, selon le plan élaboré par Lord Louis Mountbatten,
Mountbatten,
le dernier vice-roi britannique, et c'était l'oncle du mari d'Elisabeth, rappelle.
Eh oui.
Voilà. Voilà.
Du coup, comment s'est fait ensuite la partition de l'Inde ?
Bah, en fait, donc ça s'est fait en même temps. Hein, les musulmans, avec leur leader Jinnah, souhaitaient se créer un État. Et donc, les Anglais vont accéder à leur demande. Et donc, c'est comme ça que se sont créés le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, qui est devenu le Bangladesh en 1971.
D'accord.
Alors, la partition a eu des conséquences graves. Hein. C'était des violences intercommunautaires qui a fait quand même des centaines de milliers de morts, sans oublier des 10 à 15 millions de personnes qui ont été déplacées. Et cette partition laissera aussi en suspens la question dont on parle toujours aujourd'hui,
c'est
le
l'actualité.
Cachemire. Voilà, le Cachemire, c'est toujours pas réglé, c'est une zone de conflit entre l'Inde, le Pakistan et la Chine.
Mm-hmm.
C'est une guerre qui n'en finit pas.
Donc en fait, Gandhi, lui, était contre la partition. Et qu'a-t-il tenté pour l'éviter ?
Il va tout faire pour l'éviter. Il va même faire la grève de la faim, surtout la grève de la faim. Le 13 janvier 1948, pour appeler à la fin des violences, il disait préférer mourir plutôt que d'être le témoin d'une guerre de religion. Et avec Nehru, il voulait une Inde qui englobe l'ensemble des Indiens. Il ne voulait pas de la création du Pakistan. Mais finalement, ça s'est fait quand même. Et il y a une charte qui a été signée hein, sur le respect de la sécurité et des droits de chaque communauté. Et Et donc Gandhi cessera sa... Il était quand même âgé. Hein,
oui.
Et cessera sa grève de la faim.
D'accord. Voilà. Bon, alors, on connaît malheureusement la fin de l'histoire. Oui. On se rapproche de la date de l'assassinat
Mais
de Gandhi.
Oui, on
Mais
y
qu'est-ce
est.
Qui s'est passé, en fait ?
Alors, il a été assassiné dans son jardin, alors qu'il se promenait dans son jardin le matin, très tôt. Et c'est Nathuram Godse, un extrémiste hindou, qui l'accusait d'être trop conciliant envers les musulmans, qui va le tuer au pistolet à bout portant.
Alors, ça vient de son camp, en plus.
Ça vient de son camp,
d'accord,
tout à fait.
Okay.
Ça vient de son camp, contrairement à ce que beaucoup pensent.
Oui,
ça vient de son camp. C'est un hindou,
c'est un opposant,
extrémiste.
Mais même pas.
Non,
d'accord.
C'est un opposant
c'est
de
un
l'intérieur.
Ouais, voilà, c'est ça.
Voilà, c'était pas un musulman, c'était un hindouiste okay. qui l'a tué. Et ce sera Lord Mountbatten, qui était devenu ami avec Gandhi, qui va s'occuper de ses funérailles et sa dépouille sera suivie par plus de 700 000 personnes. C'est impressionnant quand
ouais,
même,
ça doit, ouais.
jusqu'au bûcher où il sera incinéré. Alors ça a été bien sûr, cette mort de Gandhi, un choc immense pour l'Inde et un traumatisme pour le monde entier. Et bien évidemment, ces idées ont inspiré des leaders comme Martin Luther King et bien sûr Nelson Mandela.
Ouais.
Alors moi, je vous recommande vivement de voir ou de revoir le film Gandhi de Richard Attenborough qui a été réalisé en 1982 avec Ben Kingsley qui est vraiment extraordinaire.
Ouais, j'ai un joli souvenir moi, de ce film.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
D'accord.
Bon, bah.
Petite pause.
Oui,
ça,
on fait une petite pause musicale et ça s'appelle Gandhi Jayanti.
Mati pukare tu jai desh pukare Ajare ab ajare ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम
Oui, c'était bien. Merci Didier. C'était Gandhi Jayanti, special song. C'était pour annoncer Romain. Romain, tu as séjourné longtemps en Inde. Tu vas nous raconter comment tu as vécu là-bas. Hein, Didier, c'est
ouais, toi
qui...
Oui, on a envie de voyager
voilà.
à travers ce que tu vas nous raconter, bien sûr. Un pays quand même assez fascinant. Hein. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà pour choisir d'aller en Inde et d'y passer un joli voyage assez long ? Enfin, tu vas nous raconter.
J'étais au Sri Lanka et je devais rentrer en France. Et j'ai rencontré un ami là-bas. J'ai rencontré un de mes meilleurs amis qui est aujourd'hui au Sri Lanka. Et il m'a dit, ça te dit pas plutôt de venir en Inde avec moi au lieu de rentrer en France. Et du coup, je l'ai suivi.
Bah tiens.
Et je suis allé en Inde avec lui. Enfin, je suis parti tout seul d'abord parce qu'il avait son avion 2-3 semaines après.
D'accord.
Donc je suis allé en Inde et il m'a rejoint 3 semaines après.
Ouais, une belle aventure comme ça. C'est celles-là les plus belles, celles
ouais.
qui sont pas forcément préparées. Alors du coup, tu es allé une seule fois en Inde, c'est ça ? Mais un séjour assez long.
C'est ça, j'étais un peu plus que 2 mois, ouais.
D'accord. Et alors du coup... ton périple, il commence où ? Quelle région tu as visité ?
Eh ben, je suis arrivé à l'aéroport de Bangalore la première fois.
Ouais.
Et donc là, direct, quand je suis sorti de l'aéroport, même si je sortais de plusieurs fois du Sri Lanka et tout, c'était un peu le, J'aime pas le terme choc culturel, mais c'est un peu la surprise, quoi.
Ça... C'est souvent ce qu'on nous dit pour le moment.
Ouais, hein. Je pense qu'on peut quand même dire ça.
C'est, ouais, quand même un petit peu. Donc j'étais un peu, voilà, ça va vite, faut réfléchir et tout.
J'ai rarement entendu des personnes me dire l'inverse. Quand
ouais, et, c'est, ben, et en fait c'était une grosse ville aussi, Bangalore. Je saurais pas dire combien il y a d'habitants, mais c'est déjà une grosse ville. Donc je me suis dit direct, il faut que j'aille dans un endroit plus calme. Et je suis allé, j'ai pris direct le jour même, j'ai pris un bus, un sleepers, là, les bus où on dort dedans. Là, et je suis allé à Hampi. Hampi, c'est entre Bangalore et Goa, c'est un peu au milieu.
Et, Goa, c'est au bord de la mer.
Ouais,
hein.
C'est côte ouest. Ouais.
Côte ouest.
Et en fait, Hampi, c'est un espèce de regroupement de plein de temples. Il y a plein de temples, c'est assez paradisiaque, ça fait un peu, c'est un peu magique, quoi. Il y a plein de temples en ruine et pas en ruine. Il y a plein de singes qui vivent là-dedans. Mm-hmm. Tout, c'est assez paradisiaque.
C'est l'Inde qu'on dit. C'est l'Inde rêvée.
Ouais,
un peu.
C'est ça. C'est la carte postale de l'Inde, c'est Hampi un peu. Voilà, c'est ça. Donc c'est très. Il y a beaucoup de choses à visiter. C'est hyper intéressant. Enfin, c'est en plus c'est hyper bien expliqué, quoi. C'est un peu un musée à ciel ouvert.
Donc tu nous recommandes d'aller visiter
ouais,
Hampi.
C'est vraiment.
Tout pour être fasciné. Quoi.
Ah ouais.
Donc ça c'est tes premiers ressentis en arrivant. Et alors quelle expérience t'a particulièrement marqué? Parce que là je vois que cette région t'a marqué, mais une chose, un moment.
Bah par exemple là, justement ce trajet entre Bangalore et Hampi, il m'a marqué parce qu'en fait donc c'est des bus qu'on connaît pas trop en France. C'est des sleepers, c'est des gros bus.
Et des couchettes alors.
Avec des couchettes où on est à tous un petit compartiment. Et en fait,
ça doit être sympa, je connais pas.
Et
ça.
En fait, on monte dans le bus. Le côté droit, c'est des bus, c'est des lits une place. Mm-hmm. Et les côtés gauche, c'est des lits deux places.
D'accord.
Et moi, je connaissais pas. J'ai juste pris un ticket. Ouais. Et je monte dans le bus. Hop, je regarde, il y a des numéros. Et je vois mon lit, j'ouvre. Et en fait, il y avait déjà quelqu'un dans le lit. Et en fait, j'avais pas fait gaffe que bah, moi, j'avais réservé un lit et un numéro.
Ah oui.
Donc, on était deux.
Vous étiez deux.
J'étais deux. J'étais avec un Indien.
Ah oui, c'était pas pour les couples.
Oui. Non, c'est pour.
Ça pouvait être. Ouais. À l'unité, mais tu te retrouves dans un lit de personnes.
C'est
quoi.
Ça, et du coup, j'ai passé bah, bien 12-15 heures de bus dans un lit avec un Indien que je connaissais pas, mais qui était super sympa, hein, ça rapproche. Hein.
Ouais, j'imagine.
Voilà, donc ça, c'était un des premiers trucs aussi qui m'a marqué là-bas. Quoi. Ouais. C'est marrant. Quoi,
il y a une promiscuité quand même qui est assez étonnante. Quoi.
Ouais, exactement.
Non, mais c'est important de le savoir avant de partir, parce qu'on peut avoir effectivement des surprises. Moi, je pensais que c'était des lits pour les couples.
Non, bah, les couples réservent sûrement ensemble.
Oui, mais bon.
Alors, c'est pas mixte. Hein. Y a un truc femme-homme. Si on ne se connaît pas, c'est quand même assez séparé.
D'accord.
Mais par contre, les hommes ensemble, voilà.
Okay.
On dort pendant 15 heures.
Ça, c'est le moment marquant. Et alors, est-ce qu'il y a une tradition qui t'a surpris ou fasciné? Là, on est plus dans la tradition.
Ouais, pas mal. Parce que, alors, ça, c'est plus tard. Donc, après tout ça, j'étais à Goa. J'ai un peu remonté à l'Inde. Je suis allé à Pushkar.
Mm-hmm.
Donc, c'est. C'est dans le Rajasthan.
Oui.
C'est une ville assez sainte, on va dire, très religieuse. Et j'ai fait un festival là-bas qui s'appelle le Holi Festival, qui est assez connu, là où on joue avec les couleurs.
Ouais, les couleurs
et là, c'est assez... Donc c'est assez marquant parce que c'est vraiment... Il y a une effervescence dingue. Hein. Les gens, ils sont vraiment... à fond quoi.
Ouais, c'est l'ébullition totale.
Ouais, c'est l'ébullition, c'est un peu dur.
Et avec toutes ces couleurs, ça. Alors, là, le photographe qui parle, je rêverais.
Bah, en fait, c'est marrant parce qu'au début, c'est très coloré, mais à la fin, c'est très marron aussi.
Ça finit par se mélanger.
Ouais, complètement. Tout le monde est marron, d'accord. Marron, okay. Toute la ville est marron quoi.
Ouais, sympa. D'accord.
Mais ouais, c'est impressionnant.
Ouais, ça doit être à voir.
Et alors,
Holi, ça veut dire sacré romain,
ouais,
je crois.
Ouais, je
hein.
crois que c'est ça. Je ne saurais pas. Mais, et pareil, ils mettent la musique à fond quoi. C'est vraiment dans cette fête là tout le monde sort un sound system de chez soi et c'est la musique à fond
d'accord
quoi.
Il y a une ferveur phénoménale Et alors du coup t'as vu des différences entre les régions j'imagine parce que c'est riche quand même l'Inde, on sait que du sud au nord
plus on monte en tout cas dans mon parcours en tout cas plus on monte plus on a l'impression que c'est je sais pas si je dirais pauvre, mais moins occidentalisé,
d'accord,
entre guillemets.
Okay.
Quoi.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Mais plus traditionnel.
Plus traditionnel,
D'accord.
Et plus chaud aussi.
Voilà, ah oui.
Et plus sec.
Et plus sec, ouais.
Ouais, bien sûr. Et alors, donc, t'as pris un slippers, et t'as utilisé d'autres moyens de transport, tu t'es passé comment ?
Ah ben, pas mal en slippers, en, ouais. Et en train aussi, j'ai fait l'expérience du train, parce que c'est vraiment pas cher, hein. Pour nous en tout cas, quand on est là-bas, le train c'est vraiment rien du tout, et puis bah là c'est pareil, c'est, bah, le train au Sri Lanka ça m'avait déjà bien fait marrer, parce que bon, ouais. Bah là c'est...
une folie, hein.
C'est une folie, mais là le train en Inde c'est pareil, hein. C'est pendant... 10 heures, t'es assis sur une banquette de 3 places avec 8-9 personnes.
C'est ça. Il y en a tout autour, au-dessus, partout.
Ah ouais, c'est sympa, quoi. Et puis il y a des gens qui montent en marche, des gens qui descendent en marche. Mais on voit énormément le paysage aussi.
Ouais, ça
et
doit
ça,
être
c'est vraiment super sympa. Et on voit aussi, moi j'aime bien voir les zones indus. Enfin, ça ressemble pas à des zones indus de chez nous.
D'accord.
Donc c'est hyper intéressant. On voit l'arrière des villes et tout. C'est...
Ah, le voyage en train, je suis fan.
Ouais, pareil.
D'accord, ah oui, bon, très bien. Bon,
oui, alors... Donc tu nous recommandes de voyager en train.
Ouais,
en
c'est un peu usant parce que bon, c'est pas le TGV. Hein,
c'est long, mais... bruyant.
Ouais, c'est long, bruyant et tout.
Mais c'est sécure.
Mais c'est sécure, ouais, si on est assis dedans, il n'y a pas de souci. Et il y a tout le temps des gens qui viennent vous vendre des trucs à manger ou à boire et
ah
tout.
Bah, donc, transition parfaite, Robin.
Ouais, ouais.
Puisque justement, voyager c'est bien, bouger c'est bien, mais il faut de temps en temps se poser. Les hébergements, la cuisine, alors tu.
Ah bah, moi, la cuisine, ça m'a marqué à vie, je pense.
Ouais.
Encore aujourd'hui, je cuisine. Hein. J'ai eu la chance d'être hébergé par. Par Anis, qui est devenu un ami depuis, qui est un Indien qui vit à Jaipur et qui était en saison à Goa parce qu'il travaillait à Goa en saison, et en fait on est devenu amis, j'ai habité chez lui, donc j'ai partagé des moments de cuisiner avec lui et tout, c'était vraiment super bien. Et puis là-bas, bon, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il faut faire attention à ce qu'on mange dans la rue.
Ouais.
Moi j'ai tout goûté.
Et t'as jamais été malade.
Et j'ai jamais été malade. Par contre, ça m'est déjà arrivé dans d'autres pays.
D'accord.
D'être malade.
Mais pas là.
Alors
l'émission est toujours trop courte, surtout quand on voyage comme ça de manière très très jolie avec toi. Juste en quelques mots,
question.
Voilà, quel impact a eu ce voyage sur ta vie ? Tu en as parlé, il y a la cuisine, tout ça. Parce que tu nous as déjà parlé un peu de comment voyager en train, tout ça. Mais on va peut-être pas passer par là. Il y a des professionnels pour ça. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est l'impact sur toi encore aujourd'hui.
En fait, c'est un peu dur à expliquer parce que ça va déjà faire plusieurs années que j'y suis allé. Déjà, j'ai envie d'y retourner. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un truc un peu qui me suit tout le temps. Encore aujourd'hui, je m'intéresse à de la littérature indienne, des articles. Enfin, c'est assez. Ça m'a marqué, quoi, sur plein de points.
D'accord.
C'est vraiment...
T'es revenu différent.
Ouais, complètement, ouais.
Et encore aujourd'hui.
Ouais, encore aujourd'hui.
Ça perdure, en fait.
Les amis, c'est fini.
Oui.
Romain, la prochaine fois. Au cours de l'année, j'espère que tu reviendras par là.
Bah pourquoi
on parlera
pas.
Du Sri Lanka.
Ouais, carrément. Ouais.
Ça te dirait ?
Ouais, super.
On sera ravis de t'accueillir. Asialogie, c'est fini, les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter samedi matin 9h30 et bien sûr en podcast sur Radio Alpa. Donc, on se retrouve jeudi prochain.
C'est ça.
On va retourner dans notre zone de confort.
Voilà, c'est ça. Là, on a fait une petite écartade, mais magnifique écartade depuis deux émissions, mais on va retourner encore.
Oui. Salut les amis, à bientôt.
À la semaine prochaine.
Au revoir Romain.
Au revoir.
Et merci d'être venu.
Merci à vous.